Guerre et paix. Troisième partie, chapitre 3, scène 2. Le pressentiment d'Anna Pavlovna se réalisa. Le lendemain, pendant le Te Deum chanté au palais, le prince Volkonski fut appelé hors de la chapelle et reçut un pli contenant le rapport du prince Kutuzov, écrit le jour de la bataille de Tatarinovo. Il lui annonçait que les Russes n'avaient pas reculé d'une semelle, que les pertes de l'ennemi étaient supérieures aux nôtres, et que, si le temps lui manquait pour lui donner des détails plus précis, il pouvait du moins lui assurer que la victoire nous était restée. Aussitôt, il y eut un second Te Deum d'action de grâce pour remercier le Tout-Puissant du cours accordé à ses fidèles. Anna Pavlovna triomphait, et la joie d'un jour de fête régna sans partage toute la matinée. On croyait à une victoire complète. Plusieurs ne parlaient de rien de moins que la possibilité de faire Napoléon prisonnier, de le renverser et de choisir un nouveau souverain pour la France. Loin du centre de l'action et au milieu de la vie de cour, il était difficile de donner aux événements qui se déroulaient leur importance réelle, car dans ces conditions, ils se groupent toujours d'eux-mêmes autour d'un fait personnel. Ainsi, par exemple, la joie des courtisans, à l'annonce de la victoire, provenait surtout de ce que la nouvelle en était arrivée le jour de la fête de l'empereur. C'était comme la réussite d'une délicate surprise. Kutuzov annonçait également les pertes qu'on avait subies et citait, entre autres, Koutaïsov, Touchkov et Bagration. Mais là aussi, l'impression de tristesse se concentra sur un seul mort, celle du jeune et intéressant Koutaïsov, qui était connu de tout le monde et particulièrement aimé de l'empereur. Ce jour-là, on n'entendit plus que ces phrases. N'est-ce pas surprenant que cette nouvelle soit arrivée juste pendant le Te Deum? Et ce pauvre Koutaïsov, quelle perte, quel dommage!
Que vous avais-je dit de Kutuzov?
Répétait à tout venant le prince Basile en se drapant dans son orgueil de prophète.
Ne vous avais-je pas toujours assuré qu'il était seul capable de vaincre Napoléon?
Le lendemain se passa sans nouvelles de l'armée, et l'inquiétude commença à sourdre dans le public. La cour souffrait de l'ignorance dans laquelle on laissait l'empereur. « Sa position est terrible, » disait-on. Et l'on accusait déjà Kutuzov, après l'avoir exalté l'avant-veille, de causer tous ses tourments au tsar. Le prince Basile ne vantait plus son protégé, mais gardait un profond silence lorsqu'il était question du commandant en chef. Dans la même soirée, une nouvelle sensation ajouta encore à l'angoisse qui commençait à se répandre dans les hautes sphères. La comtesse Hélène venait de mourir subitement de sa mystérieuse maladie. On racontait officiellement que la comtesse était morte des suites de son angine. Mais, dans l'intimité, on s'étendait sur de certains détails. Le médecin de la reine d'Espagne lui aurait donné, disait-on, un certain remède, qui, pris à faible dose, devait amener le résultat désiré. Mais Hélène, tourmentée par les soupçons du vieux comte et le silence de son mari, cet affreux Pierre, avait avalé une quantité double de la drogue prescrite et était morte dans des souffrances atroces, sans qu'on eût le temps de lui porter secours. On assurait aussi que le prince Basile et le comte avaient violemment pris à partie le médecin italien, mais qu'à la lecture de certains autographes intimes de la défunte mis par ce dernier sous leurs yeux, ils avaient aussitôt cessé de le poursuivre. Toujours est-il que, ce jour-là, la causerie de salon eut beau jeu à s'occuper de ces trois tristes événements, l'inquiétude de l'empereur, la perte de Koutaïsov et la mort d'Hélène. Le surlendemain de l'arrivée du rapport, un propriétaire venu de Moscou répandit l'incroyable et foudroyante nouvelle que cette ville avait été abandonnée aux Français.
C'était horrible. La position de l'empereur était affreuse. Kutuzov était un traître.
Et le prince Basile affirmait, à ceux qui lui faisaient des visites de condoléances à l'occasion de la mort de sa fille, qu'on ne pouvait s'attendre à rien d'autre de la part de ce vieillard impotent et aveugle.
Je me suis toujours étonné,
disait-il, en oubliant probablement dans sa douleur ce qu'il avait dit la veille,
que le sort de la Russie ait été confié à de telles mains.
La nouvelle n'étant pas officielle, le doute était encore permis. Mais le lendemain, elle fut confirmée par le rapport suivant du comte Rostopchine.
L'aide de camp du prince Kutuzov m'a apporté une lettre dans laquelle le commandant en chef me demande de lui fournir des hommes de police afin de guider les troupes à travers la ville jusqu'à la grande route de Riazan. Il prétend abandonner Moscou avec douleur. Sire, cet acte décide du sort de la capitale et de celui de votre empire. La Russie tressaillera d'indignation en apprenant que la ville qui représente la grandeur de la Russie et qui contient les cendres de vos aïeux est au pouvoir de l'ennemi. Je suis l'armée et j'ai fait emporter tout ce qui devait être enlevé.
L'empereur appela le prince Volkonski et lui dicta le récit suivant, adressé à Kutuzov.
Prince Michel Ilarionovitch, je suis sans nouvelles de vous depuis le 29 du mois d'août. Je viens de recevoir, daté du 1er septembre, par Yaroslav, du général-gouverneur de Moscou, la douloureuse nouvelle que vous avez abandonné notre capitale. Vous pouvez aisément vous figurer l'effet qu'elle a produit sur moi, et votre silence augmente ma stupeur. Le général aide-de-camp prince Volkonski vous porte le présent rescrit, avec ordre de s'informer de la situation de l'armée et des raisons qui vous ont amené à cette douloureuse extrémité. »